Rhophastos. Grand-tante Germaine, c'est son prénom, revenait du Brésil. On était le 6 janvier. Grand-tante Germaine voyageait beaucoup, avec le club. Quand elle revenait, elle invitait tout le monde et elle montrait des photos. Corentin adorait les photos des pays étrangers. Mais il détestait les soirées de grand-tante Germaine. Allez savoir pourquoi. Les photos étaient pourtant tout à fait normales, avec des monuments exotiques, des fleurs exotiques, des couchers de soleil exotiques, sur des mers exotiques, des animaux exotiques, des hommes et des femmes exotiques. Lorsqu'elle en avait fini avec les photos, elle offrait les cadeaux. Elle ne faisait pas l'inverse, pour être sûre que les gens restent jusqu'à la fin de la soirée. Corentin adorait les cadeaux, mais il détestait les surprises de grand-tante Germaine. Il les détestait justement parce qu'elles n'étaient pas des surprises. Grand-tante Germaine avait décidé un jour que Corentin faisait collection de monuments étrangers. Il possédait donc déjà une statue de la Liberté en coquillage, un Big Ben en métal doré, une tour de Pise en verre mais qui refusait de se casser, une pyramide d'Égypte avec de la neige qui tombe dessus quand on la secoue. Corentin n'avait rien contre les monuments, au contraire. Il pensait qu'en leur parlant, il apprendrait une multitude de choses, d'histoires fabuleuses, de langues, de mots imprononçables venus des pays froids, de mots à coucher dehors venus des pays chauds. Corentin dut rapidement déchanter. Les monuments n'avaient rien à lui dire. Déjà, la neige sur les pyramides, il avait beau ne pas être très calé en géographie, il trouvait ça louche. Les monuments ne lui adressaient pas la parole. Ne lui racontait rien. La tour, la statue, la pyramide ne se parlaient qu'entre elles. Curieusement, malgré leurs origines géographiques diverses, elles se comprenaient, toutes, sauf Corentin. Les monuments se parlaient tous en chinois. Alors, un monument de plus, Corentin n'en avait pas grand-chose à faire. Grand-tante sortit, fière, les paquets. Chacun eut son lot. Le stock s'épuisait, et le tour de Corentin n'était toujours pas passé. Pour un peu, il aurait commencé à espérer ne pas avoir de ticket gagnant. Mais la main infaillible de grand-tante Germaine tira également son numéro.
« Et voici pour toi, Corentin !»
La main infaillible de grand-tante sembla trembler un peu, tout comme sa voix.
« Corentin ?» « Je sais que tu tiens beaucoup à ta collection de monuments. Ne crois surtout pas que je l'ai oublié, mais... »
Elle hésita un peu.
« Je n'ai rien trouvé. Et tu sais, au Brésil, les monuments, ça ne court pas les rues. Ce n'est pas comme les enfants. Alors, je t'ai ramené autre chose. J'espère qu'il va te plaire. »
Corentin s'approcha, déballa la chose sous le regard éteint des convives qui assistaient à la cérémonie depuis plus d'une heure. Quand on déballe un cadeau, pour peu que le paquet soit préparé avec assez d'astuce, on a le temps, rien qu'en le touchant au fur et à mesure que les couches de papier se déchirent, d'imaginer, puis de se faire une idée précise sur l'objet offert, avant même de l'avoir vu. Corentin sentit tout de suite qu'il s'agissait d'un objet en bois. Il supposa ensuite deux ailes, puis un bec énorme. Enfin, il perçut un jeu compliqué de fils. Le dernier emballage, en glissant, dénuda le cadeau. Corentin n'était pas tombé loin. Il découvrait un extraordinaire oiseau équatorial, en bois peint. Son plumage se scindait en deux couleurs, nettement séparées, mais de surface égale. La partie basse était très sombre, d'un noir profond. La partie haute, des ailes au cou, était éclatante, d'un dégradé bleu-vert vif. Seules les pattes et surtout le bec, énorme, grand comme la moitié de son corps, ressortaient en jaune orangé. Enfin, deux grands yeux noirs d'animal sauvage indompté tranchaient avec l'harmonie et la douceur de l'oiseau. Un regard étrange, fier, et malheureux à la fois. Corentin remarqua alors deux fils discrets, transparents, presque invisibles, attachés aux deux ailes, se rejoignant en un anneau de fer. L'oiseau était immobile. l'anneau permettait de l'accrocher à un plafond. Les fils, lorsque l'on tirait dessus, faisaient bouger les ailes, puis le corps de l'oiseau, en donnant l'illusion d'un vol. L'illusion seulement, car le battement de ses ailes, aussi puissant était-il, ne le faisait pas bouger d'un pouce. Sous l'aile droite de l'oiseau, Corentin lut à peine lisible le nom d'un artisan brésilien. Échaudé par ses désillusions chinoises, il avait immédiatement repéré ce tatouage rassurant. Corentin était aux anges.
« Un perroquet ? Génial !»
s'écria-t-il. Pour un peu, il aurait sauté au cou de grand-tante Germaine, mais cela ne se fait pas et grand-tante n'aurait pas du tout apprécié.
« Ce n'est pas un perroquet !»
corrigea grand-tante qui avait bien retenu la leçon du gentil guide du quart du club.
« C'est un toucan !»
« Un toucan ? Quelle différence avec un perroquet ?»«
Le guide du quart ne lui avait rien dit là-dessus.
« Le bec, je crois. Les perroquets ont un petit bec et les toucans en ont un gros. En dehors de ça, le perroquet et le toucan sont des cousins très proches.
S'ils ont un si gros bec, c'est sans doute parce qu'ils sont encore plus bavards que leurs cousins les perroquets, »
crut bon d'ajouter Corentin. La remarque fit rire tout le monde, surtout grand-tante,
mais pas maman.
Corentin savait qu'il fallait jouer régulièrement à l'idiot devant les adultes, pour les rassurer. Sauf pour maman, qui s'en rendait toujours compte.
« C'est vrai, mon petit, » répondit grand-tante. « Je n'y avais pas pensé, mais tu as sûrement raison. Quelle imagination !»
Grand-tante avait sans doute dû trop jouer à l'idiote devant les adultes quand elle était enfant. Ça lui était resté, et depuis qu'elle était adulte, elle jouait les idiotes devant les enfants. Les grandes personnes qui retombent en enfance, parfois, n'arrivent plus à se relever. De la soirée, du retour, du coucher, Corentin ne lâcha pas son toucan des yeux. Il ne pouvait pas accrocher le toucan dès le soir au plafond. Il était plus de minuit. Cela dit, Corentin tenta tout de même le coup auprès de maman.
« Bien entendu, Corentin, on va planter un clou au plafond à 1h du matin, et si on n'y arrive pas, on demandera aux voisins du dessus qu'ils viennent nous aider, car après ce vacarme, cela m'étonnerait qu'ils dorment. »
Corentin, raisonnable, posa le toucan sur la table de nuit, ses deux gros yeux tournés vers lui. Le toucan ne disait rien, curieusement, car habituellement, tous les objets conversent avec Corentin. C'était d'autant plus bizarre de la part d'un toucan en bois, soi-disant cousin du perroquet, le plus bavard des animaux. Le décalage horaire, peut-être. Corentin s'endormit et rêva de Brésil. Il était perdu dans une immense forêt, une forêt d'arbres si hauts qu'il ne pouvait en voir la cime. Le feuillage émeraude des arbres remplaçait le ciel. Le sommet des arbres lui rappelait un immense plafond vert. Des milliers de toucans, tous de couleurs différentes, non pas assis sur les branches des arbres géants, mais accrochés par des fils de laine au plafond de feuilles, tournaient sur eux-mêmes. La nuit tomba et les toucans s'allumèrent instantanément. Leur plumage était fluorescent. Alors, les bruits de la forêt se turent petit à petit et les toucans se mirent tous à parler dans toutes les langues du monde. Corentin se réveilla en sursaut. Il était très tôt le matin. Les gros yeux du toucan le fixaient. De son lit, il se pencha pour l'attraper. Ses ailes étaient emmêlées dans les fils de nylon. Pourtant, la veille, il l'avait posé à son chevet en faisant le plus attention possible. À croire que le toucan avait lui aussi cauchemardé. Des choses bien étranges se nouent la nuit. Corentin entreprit donc de délier le toucan. Plusieurs fois, il faillit abandonner, aller chercher une paire de ciseaux. Mais il s'étonna de sa patience et finit par délivrer le toucan. Il était très tard le matin. Corentin avait caché un marteau, un crochet et un second rechange sous son lit. Il ne lui resta plus qu'à attendre l'occasion favorable. Forcément, maman partit aux courses. Pas longtemps, juste au coin. Ça suffirait. Corentin empila dans sa chambre, les unes sur les autres, les petites tables rondes gigognes du salon.
L'échafaudage ressemblait à une tour de Babel, en verre, frôlant le plafond.
Corentin l'escalada avec précaution. Une fois en haut, il toucha le plafond, mais il s'aperçut qu'il avait oublié le marteau et le crochet en bas. Il redescendit, remonta, planta le crochet, mais le tordit au dernier coup de marteau. Redescendit encore pour chercher le crochet de rechange, remonta, et fort de sa première expérience de bricolage, cette fois-ci, il le planta sans le tordre. De son perchoir, il dominait la fenêtre et le parc entier. Il aperçut maman qui rentrait avec sa baguette. Corentin avait le choix. Suspendre le toucan, mais il n'aurait pas le temps de tout ranger. Ou tout ranger sans suspendre le toucan. Tant d'efforts pour rien. Le choix fut vite fait. Suspendre, quitte à se faire surprendre. Il relia l'anneau d'argent du toucan au crochet par un long fil de laine rouge. Le toucan était accroché pile à mi-chemin d'une ligne droite qui allait de la fenêtre à la porte de la chambre. Corentin s'arrangea pour que les yeux du toucan, si profonds et le bec si féroce, soient tournés vers la porte, afin qu'il participe à la vie de la maison. Maman le surprit donc. C'est pourtant elle qui l'était le plus surprise. Elle regarda à peine la bestiole. Elle interpella sans sommation l'alpiniste, bien qu'il expliquât qu'il était le premier enfant de son âge à atteindre le plafond, en solitaire et en hiver, par la face nord. « Corentin, descends !» Le toucan volait dans le ciel artificiel de la chambre, et c'était bien là le principal. Corentin, avant de quitter les sommets, tira un grand coup sur les fils de nylon et le toucan partit dans un long vol majestueux. « Corentin, ne joue pas au plus malin. Descends immédiatement !» L'alpiniste redescendit. Sous la menace du courroux de Dieu la mer, il dut également détruire sa tour de Babel. L'alpiniste partit manger. Pendant la vaisselle, qu'il ne faisait pas aujourd'hui, puisque aujourd'hui c'était son jour de poussière, en dépoussiérant la bibliothèque du salon, donc, il s'arrêta sur le gros dictionnaire des animaux. Il n'y avait pas pensé plus tôt. « Dis-moi, » demanda Corentin au gros dictionnaire en le posant sur la plus haute des tables gigognes du salon. « Tu t'y connais sûrement en toucan ?»«
Si je m'y connais en toucan, tu me demanderais la recette des macaronis à la confiture d'Erel, j'aurais peut-être des problèmes. Mais les toucans, c'est quand même mon travail. Quand tu entres dans une boulangerie, tu leur demandes s'ils ont du pain ?»«
Décidément, » se dit Corentin, « plus les livres sont épais, plus ils attrapent la grosse tête. »« Et alors, les toucans ?»«
Toucans ?» Oiseau d'Amérique du Sud, au bec énorme, mais très léger, au plumage mi-sombre, mi-éclatant, récita le dictionnaire.
Ça, je le sais, coupa Corentin.
Le dictionnaire le regarda avec l'agacement d'un professeur qui n'aime pas être interrompu.
Au plumage mi-sombre, mi-éclatant, genre principal, Rhamphastos.
Quoi?
Genre principal, Rhamphastos.
C'est son nom? Tu veux dire que c'est comme cela qu'il s'appelle?
Si tu veux, répondit le dictionnaire, qui n'avait pas envie d'entrer dans une longue explication zoologique.
C'est joli comme nom, Rhamphastos. Adopté.
Corentin se leva, puis se ravisa.
Ah, au fait, est-ce que les toucans parlent?
Comment ça?
Ben oui, comme les perroquets.
Les toucans et les perroquets n'ont rien à voir.
Ils ne sont pas cousins?
Non.
Ah bon? On m'avait dit.
On t'avait dit n'importe quoi. Un toucan n'a rien à voir avec un perroquet ni un hara. Et donc, par le fait, un toucan ne parle pas.
Mais alors?
Demanda Corentin un peu déçu.
Il lui sert à quoi, son bec énorme?
À chanter, comme tous les oiseaux. Sauf les haras. Et les perroquets qui ne savent pas et qui, à leur grande honte, doivent se contenter de parler.
Corentin n'était plus déçu. Dans sa joie, il partit en oubliant le dictionnaire sur la table et la poussière partout. Quand maman vint dans le salon, elle éternua d'abord, puis repéra qu'il manquait un livre, l'un des plus gros dans la bibliothèque.
aussi visible qu'une dent du milieu qui manque dans une bouche. « Tu appelles ça faire le ménage, Corentin ?» Corentin fut donc de corvée dans le salon, puis de corvée de visite chez une amie de maman, puis de corvée de marché avec maman. Ils ne revinrent qu'en fin d'après-midi. Son premier réflexe fut de foncer dans sa chambre et de lever les yeux vers l'oiseau multicolore. Il fut déçu. Le mobile avait continué de tourner. Renfastos regardait fixement en direction de la fenêtre et n'offrait que son derrière à Corentin. A priori, ce n'était qu'un détail, mais pas pour Corentin. Un oiseau qui vous tourne le dos, c'est comme un tableau que vous accrocheriez face peinte contre le mur. « Tu sais, Corentin, » expliqua maman, réconciliée, « c'est le principe d'un mobile que de tourner sans arrêt, dans un sens puis dans l'autre. Il y a toujours un moment où on a l'impression que le mobile ne bouge plus, qu'il se stabilise, mais en vérité, l'impression est une illusion. Il continue de tourner tout doucement. On ne sait jamais où il va s'arrêter, et d'ailleurs, il ne s'arrête jamais vraiment. » Vous commencez à le connaître. Corentin était un petit garçon têtu qui ne s'avouait jamais battu. Il exigeait que Renfastos regarde vers la chambre, pas dehors. Il associait cette façon de lui tourner le dos à ce refus de lui parler. Il en faisait un défi personnel. Il fit des calculs savants et il orienta le crochet fixé au plafond juste comme il le fallait pour que Renfastos, quand il aurait fini de tourner, s'arrête en regardant vers la porte. L'histoire ne dit pas comment Corentin s'y prit pour remonter jusqu'à ce crochet, puisqu'il y avait peu de chances que sa mère le laisse construire une nouvelle tour de Babel. Si vous racontez un jour cette histoire à un enfant, arrangez-vous pour qu'il ne vous pose pas la question. Ou bien, posez-lui la question, lui trouvera la solution. Les calculs savants de Corentin ne servirent à rien. Après quelques tours, Renfastos arrêta de nouveau son regard juste en face de la fenêtre. Ses gros yeux noirs fixaient le ciel gris de l'hiver, mais il semblait chercher plus loin. Corentin testa une à une avec minutie toutes les positions possibles pour son crochet. Rien n'y fit. Systématiquement, plus ou moins rapidement, après quelques minutes, quelques heures, parfois une nuit. Renfastos finissait toujours par ralentir son manège, puis stopper doucement son mouvement circulaire, dos à la chambre, face vers la vitre. Renfastos planait sur la chambre depuis une bonne semaine. Il n'avait encore adressé la parole à personne, ni à Corentin, ni à aucun autre habitant. À force d'observer l'oiseau, une étrange impression intrigua Corentin. Le plumage du toucan ne semblait plus aussi éclatant que le premier soir chez Grand-Tante Germaine. Un peu comme si la partie sombre gagnait du terrain, notamment les ailes. Mais ce n'était sûrement qu'une impression. Sans doute la poussière, mal époustée. Corentin n'allait tout de même pas attaquer la face sud du plafond, simplement pour nettoyer les ailes d'un volatile qui lui tournait le dos sans lui dégoiser le moindre mot. Décidément, Grand-Tante Germaine avait le chic avec ses cadeaux. Corentin en venait presque à préférer les monuments chinois. Au moins, ils parlaient, eux, même s'ils ne comprenaient rien. Adresser une parole, c'est comme poster une lettre. Adresser une parole en langue étrangère, c'est au moins poster une carte postale. Têtu, Corentin tenta d'ouvrir le dialogue. Il apprit par cœur quelques mots d'espagnol. Rien n'y fit. Quand on lui raconta que, pas de chance, il n'y a qu'au Brésil qu'on ne parle pas espagnol, mais portugais, il enragea. Mais il se dit que ça expliquait peut-être le silence de Renfastos. Obstiné, il apprit les mots espagnols en portugais. Renfastos ne lui répondit pas davantage. Entêté, Corentin se renseigna sur l'Amazonie et en parla à Renfastos. Insista sur le fait qu'en appartement, la plupart des oiseaux vivent en cage, s'engagea à remuer ses ailes autant de fois par jour qu'il le voudrait. Rien n'y fit. Renfastos ne détournait même pas les yeux. Il continuait à fixer l'horizon lointain. Au collège, Corentin raconta ses mésaventures. Il demanda conseil à Dico, mais même Dico qui était pourtant incollable en sciences naturelles, en physique, en maths, en géographie, en langues orientales, ne comprenait rien. Dico Dico ne voulait pas le dire, elle racontait qu'il lui fallait réfléchir au problème, consulter son ordinateur, mais Corentin voyait bien qu'elle planait et qu'elle fuyait du regard. Exactement comme Ramphastos. On lui conseilla alors d'aller consulter Isaac, le plus fort de toutes les classes de troisième. Il était premier, avait 20 partout, et même 21 sur 20 en maths. C'est bizarre les maths. On raconta au collège qu'il faisait décoller dans son jardin des fusées qu'il construisait dans son garage, même si on ne le croyait pas vraiment. Pas que l'on pensait Isaac incapable de construire une fusée, au contraire, mais parce qu'on ne pouvait pas imaginer que ses parents soient d'accord. Isaac écouta les malheurs de Corentin avec intérêt. Il prit même des notes. Cet enfantin, Corentin, c'est un simple problème de masse. Il suffit de connaître deux données. La longueur de la corde et le poids du mobile. Le nombre de tours sur lui-même que fait ton perroquet dépend uniquement de son poids et de la longueur de sa corde. C'est physique. Il pèse combien ton perroquet ?
J'en sais rien. Au fait, c'est pas un perroquet, c'est un toucan. Je te le rapporte demain, le poids.
Quand Corentin en parla à Dico le lendemain, elle lui répondit que justement, elle venait d'avoir la même idée. Dico Dico n'était qu'une frimeuse, se dit Corentin, et ça le rassurait. Muni du poids, Isaac entreprit dans la cour des calculs complexes. Il sortit des craies de sa poche et se mit à écrire des formules terriblement longues sur le goudron, faisant de la cour du collège un tableau noir gigantesque. Même s'il était fort, surtout en fusée et en toucan, qui ne sont pas des sujets spécialement faciles. Les autres copains trouvèrent que là, avec le coup des craies sur le goudron, Isaac en faisait un peu trop. Il découvrit néanmoins la solution sur le fil de la sonnerie de fin de récré. 26,5 cm. Pas un millimètre de laine de plus, pas un millimètre de laine de moins, et le regard de ton rapace croisera pile le regard de celui qui entrera par la porte de ta chambre. La sonnerie couvrit les « merci » de Corentin. Ce n'était pas grave, il ne faut pas trop remercier les premiers de la classe. D'une part parce qu'ils sont premiers, donc énervants, d'autre part parce qu'ils sont souvent tellement seuls que c'est déjà leur rendre un service que de leur en demander un. Corentin réduisit son fil de laine rouge à exactement 26,5 cm, pas un de plus, pas un de moins. Il attendit jusqu'au soir. Ramphastos arrêta son long tournis, le regard fixement tourné vers la porte. Ça marchait ! La science est exacte, elle triomphe toujours ! Méfiant, Corentin veilla tard, mais Ramphastos ne bougeait plus. Ou imperceptiblement. Quand Corentin se réveilla le matin, Ramphastos fixait par la fenêtre le soleil qui se levait à l'horizon de son regard noir un peu rougi. Isaac n'était qu'un frimeur, se dit Corentin. Et cela le rassurait, quelque part, de savoir son Ramphastos plus têtu qu'une équation tracée à la craie blanche sur le goudron noir d'une cour d'école. Les jours passaient. Le plumage de Ramphastos devenait de plus en plus sombre. La poussière n'y était pour rien cette fois. Il n'y avait plus le moindre doute. Les ailes entières se confondaient désormais avec la partie sombre. Seul le cou conservait son bleu vert éclatant. « Comme un canard », pensait Corentin tout bas, car Ramphastos n'aurait sûrement pas apprécié la comparaison. Persévérant, Corentin tenta maintes fois de renouer le dialogue avec Ramphastos. Rien. Ramphastos ne parlait ni à Corentin, ni à aucun autre habitant de la chambre. Corentin installa juste au-dessous de Ramphastos, sur le lit, Max, un gorille en peluche. Peut-être arriverait-il à discuter ensemble de leur nostalgie des grandes forêts. Rien. Il faut dire que Max portait une casquette américaine rouge et qu'il n'avait dû entendre parler des grandes forêts que par des arrière-arrière-grands-pères. Corentin récupéra chez la voisine un baobab nain en pot. il le plaça pendant 15 jours sur sa table de chevet, le temps où la voisine était en vacances. Rien. Il faut dire que l'arbre nain n'avait pas grand-chose d'un baobab. En théorie, un baobab, ça a tout de même une autre allure. La voisine lui avait pourtant assuré que c'était un vrai baobab, mais elle était du genre de grand-tante Germaine, si vous voyez. Une copine de classe, Malika, déroba à son père un cendrier, en ébène, un vrai. Le cendrier alla lui aussi encombrer la table de nuit, à la grande terreur de maman. « Corentin, tu ne fumes tout de même pas à ton âge ?» Heureusement, maman en avait vu d'autres avec Corentin, et des trucs encore plus inquiétants. Le cendrier connaissait bien les grandes forêts. Il vivait réellement là-bas, il n'y a pas si longtemps. Mais Ramphastos refusa de lui adresser la moindre parole. Ramphastos devint alors petit à petit un objet presque oublié. Corentin avait renoncé et Ramphastos tournait définitivement le dos à la porte, à la chambre, à la maison. Il jetait son regard triste à travers la fenêtre. Les plumes de Ramphastos étaient désormais toutes sombres, d'un noir qui se rapprochait chaque matin un peu plus du noir de la couleur de ses yeux. Seul son bec conservait son jaune éclatant. « Comme un merle », pensait Corentin tout bas, car Ramphastos n'aurait sûrement pas apprécié la comparaison. Au fil des jours, Corentin avait même cessé de lui agiter les ailes. Ramphastos ne bougeait donc plus, ou exceptionnellement, quand par exemple on ouvrait pour aérer. Le petit courant d'air le faisait frissonner et le mobile se mettait en branle, lentement. Les ailes s'abaissaient et se levaient légèrement. Mais toujours, à la fin, Ramphastos reprenait sa pose. De toute façon, puisque c'était l'hiver, on n'ouvrait la fenêtre que très rarement, et pas longtemps. Ramphastos devint alors un objet complètement oublié. Enfin, presque. Corentin n'y avait pas pensé au début, mais Ramphastos était accroché juste au-dessus de la lampe de chevet. Le soir, quand Corentin voulait lire, la lampe de chevet projetait sur le plafond l'ombre immense de Ramphastos. L'envergure de ses ailes dépassait la largeur de la chambre. L'ombre s'étendait sur 3 murs. De plus en plus, cette ombre noire empêchait Corentin de lire vraiment, sereinement, en rêvant. Puis, quand la lumière était éteinte, sans que l'on sache si l'ombre était partie avec la lumière ou toujours là, tapis, elle l'empêchait de dormir vraiment, sereinement, en rêvant. Une ombre, comme un remords, mais de quoi? L'hiver prit fin comme toujours. Corentin était prévenu. Maman avait été claire. Au premier samedi de beau temps, elle imposait le grand rangement. Corentin se faisait toujours tirer l'oreille et tentait de repousser la date fatidique, même si, au fond, il aimait bien ce grand rangement. Il s'agissait de trier et non de jeter. Maman insistait toujours un petit peu pour qu'il jette au moins un petit peu, tout en sachant trop bien que c'était inutile. Corentin ne jetait jamais aucun objet. Le grand rangement pour Corentin, c'était surtout l'occasion d'une grande fête dans la chambre, telle une foire de printemps ou une fête foraine. Pour y participer, tout le monde sortait des placards, des tiroirs, descendait des étagères. Des amis que l'on croyait perdus ressurgissaient de recoins sombres où ils s'étaient isolés. Et chacun se retrouvait, conversait sur le tapis de la chambre dans une totale cacophonie. Le moins drôle était d'en profiter pour tout nettoyer. À la fin de la journée, aux 3 coups de balai, chacun rentrait chez soi. Ce matin-là, Corentin se réveilla un peu plus tôt que d'habitude. Le soleil brillait un peu plus fort. Ça n'avait pas échappé à maman. « Corentin, debout mon gros fainéant, c'est le jour du grand rangement !» Et elle ouvrit les 2 battants de la fenêtre de la chambre. Les rideaux volèrent. Corentin occupa sa matinée aux retrouvailles sur le tapis. De souvenir en souvenir, il ne vit pas le temps passer. Il laissa filer les aiguilles de sa montre et l'heure de midi. Maman l'avait déjà appelé plusieurs fois pour manger. La fenêtre de la chambre claqua tout d'un coup. Un violent courant d'air. Corentin se retourna vers la fenêtre. Ranfastos n'était plus là. Il ne resta au plafond qu'un anneau d'argent accroché à un crochet et les deux fils invisibles qui brillaient dans le soleil et pendaient dans le vide. Corentin se précipita à la fenêtre, regarda en bas, rien. Il descendit en courant, rien. Des enfants jouaient un peu plus loin dans le parc. Il n'avait rien vu non plus. Peut-être que ce n'était pas vrai. Peut-être cachait-il Ranfastos au fond de leur sac. C'est ce qu'expliqua maman. La disparition de Ranfastos à cause du vent violent, puis quelqu'un qui passe et le ramasse par terre. « Un enlèvement ?» disait maman. « Une évasion, » pensa Corentin. Depuis ce jour, depuis que Ranfastos est parti en emportant ses mystères, son ombre plane encore davantage sur la chambre. Qui l'attendait? Où? Pourquoi? Corentin a demandé au grand dictionnaire des animaux si le toucan est un animal migrateur. Il n'a pas su répondre. Depuis, c'est Corentin qui tourne le dos à la porte de la chambre, qui fixe, immobile, l'horizon par la fenêtre.